Et l'image que j'avais pendant qu'il lisait ça, c'était, alors tous ceux qui ont eu des enfants connaissent le principe, suivant les âges et suivant leur habileté, ils veulent faire un bricolage, ils veulent faire quelque chose. Et suivant les caractères, il y en a, ils vous repoussent. Laisse-moi faire, je fais tout seul. Et sur les 5 petits-enfants, j'en ai déjà eu qui ont fait ça. Je ne me souviens plus lesquels, donc voilà, c'est pas grave. Et ce que je faisais souvent, je les laissais tout seuls. J'allais dans la cuisine et puis par la fente de la porte, je regardais pour pas qu'ils se blessent ou pour pas que ça se passe mal. Donc j'avais l'œil sur eux, mais je les laissais tout seuls se débrouiller jusqu'à ce qu'ils crient « Mamie !» Voilà. Et je crois que c'est un peu... Vous savez qu'on dit toujours, c'est Jeunesse en Mission qui disait ça pendant un temps, Dieu est un père avec un cœur de mère. Et je pense que souvent, quand on le repousse, quand on dit « je peux me débrouiller tout seul, j'ai envie de faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux », ça arrive, on ne le dit pas comme ça, mais ça revient à ça, eh bien oui, il se retire. Il se retire. Mais il garde un œil dans la fente de la porte. Il garde son œil sur nous, toujours. Toujours. Donc, ne soyons pas choqués par ce texte. C'est le langage des apparences, effectivement. On a l'impression que Dieu nous abandonne. Et il y a un texte qui dit aussi, ce sont vos péchés qui mettent un obstacle, etc. Et quand on décide de faire vraiment ce qu'on veut et de désobéir à Dieu, ben, il se retire. Mais il se retire pas très loin. Et puis, quand on crie, Seigneur, il revient parce que son œil est sur nous. Hein. Donc, faisons attention à ces textes-là qui peuvent être mal interprétés. Donc non, Dieu ne nous abandonne pas, mais on a l'impression qu'il nous abandonne quand on veut en faire à notre tête. Mais il n'est pas loin, il n'est pas loin. Voilà, je voulais juste préciser ça. Et on va reprendre la suite de Les uns les autres. J'avais prévu au départ que ce serait un seul message. Apparemment, ça m'arrive assez souvent. Ça va faire partie de mes nombreux défauts. J'ai très mal calculé la quantité d'infos qu'il y a dans ce livre. Je vous invite d'ailleurs à le lire. Vous allez retrouver beaucoup de choses que j'ai dites. Simplement, bon, on les partage, mais ce n'est pas moi qui ai tout trouvé. Je trouve ce livre est absolument fantastique. Voilà. Donc, on avait dit « Aimez-vous comme je vous ai aimé ». Et évidemment, « Aimer comme Dieu aime », c'est quand même énorme, et mission impossible absolument. Et on avait vu la semaine dernière qu'il faut que notre amour gagne, donc je fais un petit résumé, gagne en largeur, c'est-à-dire que bon, on ne se limite pas à la petite cellule qui nous entoure, mais famille, amis, relations, collègues, frères et sœurs dans l'église, voilà, ceux qui nous aiment et ceux qui ne nous aiment pas, ceux qui ne nous apprécient pas, ceux qui valorisent nos qualités, puis ceux qui comptabilisent tous nos défauts, ceux qui trahissent, pourquoi pas aussi, les gens différents, les gens semblables. La Bible dit, c'est 2 Corinthiens 6, 13, élargissez vos cœurs. Ça fait beaucoup d'élargissements hein, quand on arrive jusqu'à ceux qui nous trahissent, ceux qui nous tirent dans le dos. Ça fait quand même beaucoup, mais élargissons nos cœurs. Ensuite, on avait dit, on a besoin que notre amour gagne en longueur, puisqu'on avait parlé hein, de la largeur, la longueur, la profondeur. Et la hauteur de l'amour de Dieu. Alors en longueur, bah oui, en longueur dans le temps. J'avais jamais pensé à ça en lisant ce texte. Dans le temps, c'est pas un feu de paille l'amour. Oh, on aime bien quelqu'un, puis on l'aime plus. Et voilà, un amour qui dure et surtout qui se décourage pas. Alors ça, en tant que parent, on est obligé d'apprendre ça. Sinon, les pauvres enfants, un amour qui dure et qui se décourage pas. On a vite fait de se décourager quand on est humain. Et on a besoin aussi que notre amour gagne en profondeur, on avait dit la semaine dernière, donc pas un amour superficiel qui se contente des apparences, mais un amour qui apprend le discernement, qui voit au fond des choses. Et vous remarquerez très vite, et certains l'ont certainement déjà remarqué, qu'il y a des gens dans notre église, ça fait partie des dons cachés dont on a parlé cette l'année dernière, ou, oui, au mois de novembre, je crois. Des gens qui ne se contentent pas de « oui, oui, ça va bien avec la grâce de Dieu » ou bien « oui, ça va, ça va », mais qui vont vous poser une question. « J'ai l'impression que tu as un problème. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. » Alors, ils ne le disent peut-être pas comme ça, mais voilà. Et je ne donnerai pas de nom, pas vous mettre mal à l'aise, mais je sais qu'il y en a plusieurs ici qui voient au-delà du « ça va bien, merci ». Et ça, ça fait partie de la profondeur de l'amour, je pense. C'est un don que Dieu a donné, mais ça fait partie de la profondeur de l'amour. Ne se contente pas de « ça va bien avec la grâce de Dieu ». Alors, un amour qui est conscient qu'au fond, chaque homme a besoin du pardon de Dieu et d'être libéré, quelles que soient ses apparences. Moi, je me souviens au début de l'Église, c'était la femme de José Dizazo, ils étaient allés chez des voisins, et en revenant, elle me dit, il n'y a pas eu moyen de leur parler de Jésus. Ces gens-là, ils ont tout, et tout va bien pour eux. Je suis sûre que c'était que les apparences, mais elle m'a dit, j'ai quand même vu un moment qu'ils avaient tout un tas de petits médicaments à côté de leur assiette. Et que ça n'avait pas l'air d'être des problèmes totalement physiques. Ah, mais voilà, il y a des gens effectivement qui ont ces apparences, tout va bien pour eux, et l'amour justement profond va au-delà de ces apparences-là. Et il faut vraiment avoir cet amour profond de Dieu pour aller au-delà et pour arriver à gratter la surface avec tact. C'est pas facile du tout de témoigner dans des conditions comme ça, et je compatis avec ce qu'elle disait, c'était pas simple. Moi, ils ont continué à témoigner aux voisins, mais c'est vrai que c'était pas facile. Et on a aussi besoin, donc c'est le dernier, non l'avant-dernier, que notre amour gagne en hauteur. C'est le dernier. Pour tenir compte que l'autre est en chemin. Alors vous savez, vous avez tous remarqué, que ce soit sur une montagne ou quand on est en avion, comment on voit les choses différemment. Vous regardez par le hublot et vous voyez, tout semble tout petit. Ça semble un peu ridicule parfois. On se dit, oh là là, on se fait tant de soucis pour ci, pour ça. Et Dieu, lui, voit tellement plus haut les choses. Et quand on prend de la hauteur par rapport à un problème, c'est déjà beaucoup plus facile. C'est difficile de prendre de la hauteur. D'ailleurs, vous avez vu les avions, hein, ils mettent vraiment la gomme hein, pour décoller. Il en faut hein, pour prendre de la hauteur. Ça ne se fait pas comme ça. Mais ça nous permet de voir des choses qu'on ne verrait pas autrement. Ah, ça nous permet particulièrement de voir que l'autre, il est en chemin. Et s'il le veut, il peut devenir autre chose. Et ça, ça demande vraiment de la hauteur. S'il le veut, bien sûr. Et c'est d'ailleurs le but du ministère de la Maison d'Élie. C'était le but du ministère du TQP. C'est-à-dire, c'est un ministère d'amour qui prend de la hauteur. On ne s'arrête pas à ce que vous êtes aujourd'hui. On ne s'arrête pas aux problèmes qui vous bloquent aujourd'hui ou qui nous bloquent aujourd'hui. Chacun, quel que soit son problème et les mauvais fruits qu'il produit aujourd'hui, s'il le veut, je dis bien s'il le veut, il peut changer. Quelqu'un me disait il y a quelques années, « Oh, regarde cette personne, elle a fait toutes les relations d'aide possibles et imaginables et elle n'a pas bougé. Donc à quoi ça sert la relation d'aide ?» Relation d'aide ne va jamais forcer quelqu'un à changer. Je peux faire toutes les relations d'aide de France et de Navarre. Si je ne veux pas changer, ça ne marchera pas, évidemment. Parce qu'on n'est pas des robots. Parce que Dieu n'est pas un dictateur. Il ne nous oblige pas. Et ça, c'est un truc qui nous dépasse dans l'amour de Dieu. Il ne nous oblige pas. Nous, quand on voit quelqu'un, je passe s'enfoncer dans la boue, on a envie de le tirer. Mais Dieu dit, veux-tu ? Enfin, moi, ce qui me surprend quand même, c'est quand Jésus disait, veux-tu être guéri ? Combien de fois, quand j'étais petite, j'étais là. Moi qui avais horreur d'être malade, j'étais une très mauvaise malade, m'énerve d'être malade. Veux-tu être guéri ? Mais évidemment, tiens ! Eh ben non. Je cite souvent cet exemple de cette dame, quand je faisais le service de bibliothèque à l'hôpital de Rouen. J'avais vu qu'elle était croyante, donc je lui avais posé. Elle était paralysée, elle avait un problème aux jambes, elle ne pouvait plus marcher. Elle était encore très jeune, peut-être 35 ans. Et j'avais commencé à lui témoigner pendant que ma copine faisait autre chose. Normalement, on n'était pas autorisés. Et elle me disait, oui, je crois en Dieu, mais vous savez, je ne veux pas guérir. Qu'est-ce que je deviendrais ? J'étais tellement habituée, là, comme ça, je ne pourrais plus reprendre les enfants, la maison, le travail. Alors, j'avais 14 ans. Je me disais, mais c'est pas possible que quelqu'un ne veuille pas guérir. Et ce jour-là, j'ai compris ce que dit la Bible quand Jésus dit, veux-tu être guéri ? C'est vrai pour le physique, c'est vrai pour le reste aussi. Ça peut sembler bizarre, mais quelque part, les mauvais fruits peuvent créer une zone de confort. Et on n'a pas envie de changer. Et là, personne, même pas Jésus, ne pourra y faire quelque chose. Parce qu'il est gentleman. Il ne fera pas changer quelqu'un de fort. Il va disposer toutes les circonstances pour nous aider à aller dans cette direction, mais va jamais nous prendre de force. Et ça, c'est important. Alors, pourquoi parler de hauteur ? Pour moi, c'était un petit peu comme la profondeur. Hein. Et non, parce qu'il y a ce vieux chant qui dit « Haut, plus haut que l'azur des cieux est ton amour ». J'ai souvent chanté ça quand j'étais petite, c'était un grand classique dans mon église. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, on a dit prendre de la hauteur par rapport à une situation. On dit parfois être au-dessus de ça. Tout ça, ça va dans le même sens. Parce que l'amour de Jésus, en fait, il n'est pas mesquin. Il n'est pas terre à terre. Il voit les choses en perspective. Et ça, ça fait du bien. Et nous, on a du mal à voir les choses en perspective. Je ne sais pas si toutes les mamans l'ont vécu comme moi, mais quand on a un bébé qui vient de naître, t'as l'impression que ça va durer une éternité. Et on se retrouve un an après avec un bébé qui commence à marcher, qui devient autonome. Et, ouais, déjà. Je ne sais pas si ça vous a fait la même impression, mais moi j'avais l'impression que ça allait durer. Et bon, évidemment, c'est qu'elle en recommence. Et voilà. Mais voir les choses en perspective, c'est important. Voir les gens et nous-mêmes. Pas s'oublier soi-même, hein, en chemin. Je le dis toujours. Et en devenir. Et là, pour moi, c'est l'exemple de Paul qui m'a frappée. Paul, vous rendez compte, la Bible dit qu'il respirait, c'est au début des actes, hein, il respirait la menace et le meurtre, la version seconde. Dis donc, génial un gars comme ça. J'imagine que les premiers chrétiens, quand ils entendaient parler de lui, ils devaient trembler, se dire j'espère qu'il ne vient pas dans notre région. Hein, parce qu'il passe son temps à mettre les chrétiens en prison, c'est pas du coup les familles, hein, les enfants étaient dispersés. C'était l'horreur ce gars. Seulement, Dieu voyait les choses en perspective. Il voyait quelque chose de profond, il voyait de plus haut, il voyait plus loin. Et il se rendait compte que dans le cœur de cet homme, il y avait le désir de plaire à Dieu. Il y avait le désir de faire sa volonté. De ne pas mépriser l'unicité du Dieu vivant d'Israël. Et en fait, il était dans une dynamique de défendre Dieu. Il n'était pas du tout dans la cruauté pure, et Dieu le savait. Dieu voyait ça, lui, de là-haut. Il voyait dans son cœur. Et vous remarquerez comment Jésus s'adresse à Paul. Bon, il y va fort quand même. Hein. Il met toutes les circonstances de son côté. Il le fait tomber de son cheval. Il voit une lumière énorme qui l'aveugle. Et puis, il entend une voix. Ça fait beaucoup quand même. Mais il connaissait l'animal. Hein. Il savait qu'il fallait mettre le prix. Et Dieu met le prix pour chacun d'entre nous. Suivant la dureté de notre cœur, suivant... Avec des gens très souples, il va être beaucoup plus souple. Et avec des gens bloqués comme Paul, il met le paquet. Et pourquoi ? Il lui dit, pourquoi me persécutes-tu ? Et ce que j'aime, c'est la suite. C'est dans Acte 26, 14. Je crois qu'il y a deux textes. Il y a Acte 22, 7 et 26, 14, si vous voulez les relire, les témoignages de Paul. Je te destine à être témoin de ce que tu as vu de moi. Waouh ! 10 secondes avant, il partait pour mettre les chrétiens en prison. 10 secondes après, on lui dit, je te destine à être témoin de ce que tu as vu de moi. Parce que Dieu pouvait prendre de la hauteur. Sûr que les pauvres chrétiens, ils ne pouvaient pas en prendre de la hauteur. Pourvu qu'ils ne viennent pas chez nous, on va tous finir en prison. Mais Dieu pouvait prendre de la hauteur. Et cet amour de Dieu, pensez toujours à ça, l'amour de Dieu, il prend de la hauteur. Il ne me voit pas dans mon blocage aujourd'hui, dans mon mécontentement, dans que ce soit n'importe quoi de mes défauts, mes médisances, n'importe quoi. Il prend de la hauteur, il voit mon trajet, il voit ce que je peux devenir. Et ça, c'est précieux. Jésus, oh ben bien sûr, il n'était pas aveugle, hein, il voyait bien le persécuteur. Alors ça, il le voyait bien, c'est pour ça qu'il y a mis le prix. Hein. Mais il ne s'arrêtait pas là. Parce qu'il voyait déjà le témoin qu'il allait être. Le serviteur extrêmement fidèle, engagé, consacré. L'apôtre qui va établir les bases de la foi chrétienne. Ah dis donc, ça c'est de la hauteur. Hein. Et réfléchissons, alors là je pense bien sûr à tous, même les plus âgés, parce qu'on a encore du trajet tant qu'on est encore vivant. Hein. Mais pour les plus jeunes c'est important. Ouais mais moi, j'ai si tel blocage, tel... Mais il prend de la hauteur, il voit votre trajet, il voit la perspective de ce que vous allez être, de ce que vous pouvez être. Je dis bien, si vous le voulez. Parce que même Dieu ne vous forcera pas. Paul aurait encore pu dire non. D'ailleurs, je le trouve quand même assez coriace. quand Dieu lui dit, Jésus lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Il répond, qui es-tu pour que je te persécute? Bon, quand même du cran, hein, moi je ne crois pas que j'aurais répondu comme ça. Il était, ouais, solide. Mais pensez à ce Dieu qui vous voit en perspective. Il ne vous voit pas là, tout de suite, à la seconde, aujourd'hui. Pas seulement, il vous voit aussi demain, dans un an, dans 10 ans. Cet amour, il vous voit aujourd'hui, mais il voit aussi tout ce que vous pouvez être, si vous le voulez. Et Paul dira au roi Agrippa, alors j'étais contente parce que je crois que c'est toi, Colette, qui l'a cité ce texte à la réunion de dames cette semaine. Je l'avais déjà rédigé, donc c'était intéressant. Acte 26, il dit au roi Agrippa, « Je n'ai pas été, ça c'est la traduction NBS je crois, « Je n'ai pas été réfractaire à la vision céleste, mais j'ai annoncé qu'ils doivent changer radicalement et se tourner vers Dieu avec des œuvres dignes de ce changement radical. » Traduction NBS. Alors c'est intéressant. « Je n'ai pas été réfractaire. » Ah, c'est là le problème. Comment nous on va réagir à cet amour qui prend de la hauteur? Est-ce que je vais être réfractaire? Je vais faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Ou est-ce que je vais dire, ok Seigneur, tu as une belle vision pour moi, tu as un bel avenir pour moi. Je rentre dedans. Même si aujourd'hui, bon, je ne suis pas terrible, et puis voilà, j'ai ça et ça et ça. Mais je rentre dans ta vision. Hein? Et ça, c'est encourageant. Quel que soit notre âge. Il y a des gens qui ont commencé leur ministère très tard. Il y a des grands médecins comme Schweitzer qui ont commencé, je ne sais plus si c'est 40 ans ou 40 et quelques. Enfin, bon, normalement, les études de médecine, on les commence à 20 ans. Hein. Non, non, et, devant Dieu, ce n'est pas un problème. S'il a une mission pour nous, il ne s'occupe pas du reste. Il va nous la donner, il va nous donner ce qu'il faut. Donc, restons quand même sur ce verset, je n'ai pas été réfractaire. C'est-à-dire, je ne me suis pas opposée à ce que Dieu... Il aurait pu, franchement, il aurait pu. Têtu comme il était, moi je trouve que c'est beau qu'il ait craqué. Hein. Il aurait pu se bloquer, rester dans son enseignement juif. Il n'y a qu'un seul Dieu. Comment ce Jésus s'est proclamé Dieu? Il est hors de question et voilà. Mais il a été touché dans son cœur parce que je pense qu'il a senti l'amour du Seigneur. Pourquoi me persécutes-tu? Et ça aussi, attention, je le dis tout le temps, mais c'est tellement important parce qu'on est humain. On a une vision de Dieu qui est une vision... comment on appelle ça? On la rapporte à notre vision humaine. Anthropologique, oui, j'allais dire, mais je cherche un mot plus simple. Voilà, on s'imagine Dieu comme nous. Mais non, il est tout autre. Surtout, arrêtons d'imaginer Dieu comme nous. Et d'ailleurs, ça va être tout au long de ce message, ça va être le problème. Arrêtons de voir Dieu comme nous. Il est tout autre. Donc Paul n'a pas été réfractaire, il ne s'est pas opposé, il n'a pas refusé, il n'a pas désobéi, il a fait le choix d'obéir. Et là, pour une fois, il n'a pas obéi par légalisme religieux. Parce qu'il était là-dedans, lui. Hein. Pharisien, rendez-vous compte. Paf, il faut faire, il faut faire, il faut faire, il faut faire. Mais parce qu'il avait été confronté à la hauteur de l'amour de Jésus. Et vous remarquerez quand même, d'accord, il l'a fait descendre de son cheval, mais il ne l'a pas écrasé, il ne l'a pas jugé. « Qu'est-ce que tu fais à persécuter mes enfants? Tu vas voir !» Non, non, non. Il l'a mis en état d'entendre, mais c'est tout. Et pourtant, je trouve qu'il l'aurait mérité. Hein. Imaginez si vous aviez un frère, une sœur qui avait été mis en prison par Paul. Vous auriez dit, « Bah dis donc, Seigneur, là, tu y allais vraiment mollo avec lui. Hein. » Voilà. Mais il voyait les choses de plus haut, le Seigneur. Il voyait sa loyauté. Paul était un homme extrêmement loyal. Sa persévérance, sa soumission à Dieu. Quand il a rencontré Dieu, il a obéi. Et son zèle, qui était fortement mal utilisé, mais zélé, hein, il allait au bout des choses. Son désir de plaire à Dieu, aussi très mal utilisé, mais c'était quand même là, son désir de plaire à Dieu était là. Et c'est Paul qui a écrit ce texte sur lequel je n'avais pas du tout envie de parler, mais j'étais un peu obligée. 1 Corinthiens 13. C'est quand même lui qui l'a écrit. Ouh, faut le faire hein, pour en arriver là. Je crois que avec cette expérience, il avait vraiment bien compris qui était Dieu. Parce que sinon, il n'aurait pas pu. Il n'aurait pas pu. Parce qu'1 Corinthiens 13, c'est tout le contraire de ce que nous sommes en tant qu'humains. C'est pour ça que je n'avais pas trop envie de prêcher là-dessus, mais vraiment, je suis obligée. Parce que je me suis dit, qui suis-je pour parler d'un texte comme ça? Quand je vois où j'en suis moi, qu'est-ce que je peux dire? Mais le Seigneur m'a rappelé que quand on annonce sa parole, on ne fait que distribuer son gâteau, mais on n'est pas cuisinier. Et donc, je vois, mais voilà, j'en suis au même point que nous tous. C'est un texte qui nous parle, mais on en est tous très loin. On va quand même le lire. Donc, je prends la version de Kuhn, puisque c'est un petit peu là-dessus que je travaille en ce moment. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour, il n'est pas envieux. Il ne cherche pas à se faire valoir. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste. La vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne. Il fait confiance. Il espère. Et il persévère. Là, je crois que ça s'adapte très bien à ce qu'on vient de lire avec Paul. Hein, cet amour de Dieu, pourquoi me persécutes-tu? Voilà, tu verras, etc. Alors, c'est vrai qu'on a envie de dire comme Paul, alors la référence c'est 2 Corinthiens 2,16, mais qui est suffisant pour ces choses? J'ai bien aimé ce verset, j'y avais pas trop fait attention, mais qui est suffisant pour ces choses? Franchement, qui est capable de remplir une telle mission? Sachant que la responsabilité de celui qui prêche est encore plus grande, ça ne me donnait pas trop envie de parler là-dessus. Mais ce qui me rassure, c'est qu'on prêche Jésus. C'est lui le modèle. C'est pas nous, heureusement. Alors, il est la source pour chacun de nous. Et je vais citer quelques versets importants. Romains 5,5. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, ça devrait nous faciliter la tâche. Par nos propres forces, en tout cas, c'est mission impossible, même si honnêtement, c'est le programme de toute une vie chrétienne. Ésaïe 26,12 dit « Éternel, tu nous donnes la paix, car c'est toi qui accomplis en nous, ou pour nous, suivant les traductions, tout ce que nous faisons. » Donc, il y a de l'espoir. Par nous-mêmes, c'est même pas la peine de rêver. Mais je pense que si on compte sur le Seigneur qui habite en nous, ça va nous aider à prendre ce chemin. Je dis bien prendre ce chemin parce qu'il n'y a que Dieu qui arrive à cette perfection, évidemment. La définition de l'amour de Dieu, donc l'agapé de Dieu, on en parle souvent, hein, s'exprime ici par 15 verbes. Alors ça, c'est Kuhn qui remarque ça. Et il dit parce que les verbes, en général, expriment une action, même si ce n'est pas tous, mais beaucoup. Et parce que l'amour se manifeste en action. Alors ça, c'est important parce que je t'aime, j'aime tout le monde, j'aime, oui, pas de problème. Mais l'amour dans la Bible, ça reste pas un concept poétique, philosophique ou tout ce que vous voudrez. Ça s'exprime par des actions. On peut aimer les gens, on peut aimer par exemple les personnages bibliques. Oh, moi j'aime un tel, il n'y a pas de risque, on ne se fâchera jamais avec eux. On peut aimer aussi ces grands missionnaires. Moi, je suis passionnée par la vie de certains missionnaires. Oh, les bras vous en tombent devant leur vie. Mais bon, c'est sûr aussi qu'on n'aura pas de problème avec eux. Certains avaient un caractère bien trempé. Ou alors certains grands prédicateurs modernes. Oh, on est passionnés. On peut les aimer, il n'y a pas de problème. On n'aura jamais de difficulté avec eux. Par contre, son prochain, et son prochain le plus proche, c'est-à-dire le conjoint, c'est beaucoup plus difficile déjà. Hein, et l'amour, selon 1 Corinthiens 13, ce sont des actions à accomplir ou à rejeter. Vous avez remarqué, il y a des ne pas et il y a du positif. Et Kuhn commence par les 8 caractéristiques négatives, parce que l'amour n'est pas. Ah, je ne sais pas pourquoi, il préfère garder le meilleur pour la fin, j'imagine. Alors, l'amour n'est pas envieux, c'est le premier, pas possessif, pas jaloux, il ne cherche pas à accaparer. Et ça, justement, c'est le respect de Dieu pour l'homme. Il ne s'empare pas de nous, il attend qu'on dise oui. D'ailleurs, on l'a chanté ce matin, j'ai apprécié parce que ça va bien avec, il attend qu'on dise oui. Alors que l'amour humain, naturel, sentimental, cherche à avoir, à garder pour soi. Hein ? Il attend un retour, l'amour humain. Quand même. C'est un petit peu normal, on va dire, hein, humainement. Notre pauvre Seigneur, de ce côté-là, il n'est pas souvent gâté. Hein ? Notre retour n'est pas toujours terrible. Ça fait mal quand on y pense. Je sais que Florence n'est pas très contente de son chat par moment, parce que elle attend, en prenant un chat, elle pensait avoir une petite peluche charmante qui allait se nicher dans ses bras de tout en temps. Et puis, elle est horrible, cette bestiole. Elle va s'asseoir sur les genoux des invités. Elle va pas voir sa maîtresse. Spéciale, hein, la bête. Ah oui, il faut pas la caresser plus de 2 ou 3 fois, parce qu'après, elle griffe, ça suffit. Fichez-moi la paix. Aïe. Ben, elle est très humaine. Je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Et on... Voilà, on ne m'accapare pas. Aïe, aïe, aïe. L'amour agapé n'aspire pas à être ou à avoir autre chose que ce que Dieu lui a accordé. Ah, ça, c'est... On en parlait avec les... J'en parlais avec Joy et Elise ce matin au petit déjeuner. C'est pas simple à accepter. L'amour, selon Dieu, il n'est pas jaloux. Et Philippiens 2,6 peut être traduit comme ça. Il n'a pas retenu jalousement le rang, il s'agit de Jésus, hein, il n'a pas retenu jalousement le rang qu'il légalait à Dieu. C'est ce texte qu'André lit souvent à la Sainte Cène. Mais il s'est fait esclave en devenant semblable aux humains, c'est la traduction NBS. Il n'a pas retenu jalousement le rang qu'il légalait à Dieu, même dans ce domaine. Paul utilise ici un mot qui est semblable à celui qu'il utilise pour dire aspirer aux dons les meilleurs. Aspirer. Retenir jalousement, aspirer. L'amour n'aspire pas à ce que l'autre possède. Et ça, à notre époque, hein, c'est un peu bizarre parce qu'on passe son temps à dire « Allez, faites comme ceci, achetez comme cela, etc. » L'oreille, par exemple, ne va pas souffrir du fait qu'elle n'ait pas un œil. Puisqu'on revient à la... On a parlé au début de ce message du corps. Nous sommes un corps, les uns les autres. Et l'oreille, ben, c'est une oreille, elle n'a pas envie d'être un œil. J'espère. Et alors nous, on est humains. Et souvent, notre raisonnement... Alors parfois, c'est limite, mais il faut faire attention quand même. Ah, si je pouvais chanter comme David. Celui-là ou celui de la Bible. Ou dessiner comme Marie-France. On aimerait bien quand même. Ou Alexis. Ou être aussi doué à l'école, il n'est pas là, c'est bien, comme Nathanaël. Quand je vois les résultats scolaires de Nathanaël, je me dis, oh, j'aurais tellement aimé, moi aussi. Hein, je travaillais, mais je n'arrivais pas à ces résultats-là. Lui, il travaille et il arrive à ces résultats-là. Ah. Ou bien, ah là, quand je fais la piscine, parfois, j'aimerais bien nager comme Charles Cosme. Ou Wangui, hein, qui est... Hein. Ou alors, parfois, on aimerait avoir le don de prophétie de XY, ou évangéliser comme Billy Graham. Ou bien défendre la foi comme Timothy Keller. Moi, quand je lis Timothy Keller, je me dis « Oh, comment il est doué pour défendre la foi !» C'est « Ah !» Eh oui. Et le problème, c'est que parfois, on ajoute au bout « Alors là, je pourrais servir Dieu, si j'avais tout ça. » Les dons d'un tel, les dons de l'autre. Les dons... Alors là, je pourrais servir Dieu, mais là, tel que je suis aujourd'hui, je suis trop nulle. Mais non ! Parce qu'imaginez que Dieu vous a créé, Dieu connaît nos limites. Et Dieu demande à ce qu'on le serve avec ce qu'on a. Vous voyez le petit garçon avec ses pains et ses poissons ? Il a servi Dieu avec ce qu'il avait. Et il faut accepter l'idée, ça on en discutait ce matin avec les Joy et Elise, il faut accepter l'idée qu'on est différent dans nos dons et nos capacités. Et je disais justement à Joy ce matin, tu imagines si on était tous exactement pareils ? Ah, oh, dit, ce serait vraiment ennuyeux. Ben oui. Si on avait tous le même don, il n'y en aurait qu'un du coup. Bon, c'est quand même trop bête. Et c'est seulement l'amour, et là on y revient, qui va nous permettre d'accepter ce que Dieu nous a donné et ce qu'il a donné aux uns et aux autres. Mais sans cet amour, il y aura forcément de l'envie. Je n'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai, il dit sans cet amour, il y aura forcément de l'envie. D'ailleurs, c'était le cas du premier meurtre de l'humanité, qui nous est relaté dans la Genèse, c'était l'envie, la jalousie. Pourquoi lui et pas moi ? Il n'a pas du tout réfléchi hein, que peut-être il n'avait pas fait ce qu'il fallait, mais il voulait le même résultat. Et puis aussi, Ça a été l'origine, cette envie, de milliers de meurtres avec les paroles. Donc si on est envieux des dons des autres, soyons plutôt admiratifs. Et ça, j'ai longtemps réfléchi à ça en préparant ce message. Admiratifs du Dieu qui les a accordés. Et je crois qu'il faut changer nos réflexes. C'est bien d'être heureux de voir les gens avoir des dons extraordinaires. Mais prenons-le comme un signe de la toute-puissance de Dieu. Comme un signe de son esprit créatif. Soyons fiers de connaître ces gens-là. Parce qu'en fait, ce sont les belles et bonnes choses de notre monde qui nous procurent de la joie. D'ailleurs, les gens ne sont pas idiots quand même. Ils vont acheter un tableau. Ils vont même le payer horriblement cher. Plus cher que les grammes de peinture qu'il y a dessus. Hein. Parce qu'il y a un don derrière. Ils ne vont pas forcément être jaloux du peintre, mais vont être contents d'acheter son tableau. Et c'est un petit peu le réflexe qu'on devrait avoir avec tous les dons qui sont autour de nous. C'est vrai que quand je parle avec Nathanaël, par exemple, et qu'il me dit ses notes, je suis là. Oh! Je dis, Seigneur, c'est formidable que tu lui aies donné ses capacités. Et je crois que c'est Joy qui me parlait d'une copine là en classe qui a toujours entre 18 et 20, elle a même eu 22 en allemand cette semaine. Bon, eh ben, je dis, elle est gentille. Oui, en plus, elle est gentille. Mais je dis, mais vous voyez comment Dieu peut donner des dons, des capacités à ces gens, pourvu qu'ils les utilisent correctement. Mais c'est réjouissant. Bah, Seigneur, moi, je ne les ai pas eus. Ou... Bon, mais ce n'est pas grave. Tu donnes. Toi, tu m'as donné autre chose. Pensez aux musiciens, aux décorateurs. Et réjouissons-nous de ce que les autres ont. Parce que c'est ça qui donne des couleurs à la vie aussi. C'est ça qui donne des couleurs à notre monde. Si on était tous pareils à faire uniquement la même chose, mais ce serait répugnant. Donc, reconnaissons la complémentarité. Si, par exemple, on a tendance à être jaloux, eh bien, je pense qu'il faut transformer ça en joie de dire « Oh, Seigneur, mais qu'est-ce que t'es créatif ! Qu'est-ce que t'es créatif ! » Quand je vois, parfois, sur Pinterest, on voit des trucs drôles. Le gars qui fait une cathédrale en allumettes ou des trucs comme ça. Ben oui, c'est marrant, c'est super, c'est rigolo, ça donne du peps, quoi. Moi, je trouve que c'est réjouissant. On regarde, on dit « Wow, il est doué, le gars, quelle patience !» Et je pense que tout ça, ça nous apporte de la joie. Alors que si on rentre dans la jalousie, eh ben moi je peux rien faire de propre, eh ben on se coule. Et on méprise Dieu qui nous a donné des qualités nombreuses. Il a créé un monde diversifié extrêmement beau. Donc regardons le Seigneur au travers des dons des autres. Se réjouir des dons, des talents, des savoir-faire des autres, c'est vraiment se réjouir de la grandeur et de la créativité de Dieu et de son amour. C'est admirer Dieu dans ses œuvres. Et ma mère m'a appris ça quand j'étais petite. Je ne suis encore pas forcément au point dans ce domaine, mais c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée. Se réjouir de ce que les autres ont, se réjouir de ce que les autres ont reçu, se réjouir de ce que Dieu fait. Et je sais que elle n'est pas là, Evelyne, ce matin, mais son papa était un jardinier extraordinaire. Et quand vous passiez devant son jardin, c'était magnifique à voir. Les rangs impeccables. Enfin, c'est vraiment comme un dessin, quoi. C'était... Et pas un poil d'herbe en trop, etc. C'est un jardin magnifique. Moi, j'arrive pas à faire ça. J'ai pas le temps. Mais qu'est-ce que c'est beau, Seigneur ! C'est beau d'avoir donné à cet homme cette capacité. Si vous regardez les décos de Cathy ou de Paola, pour prendre des gens qui sont là ou qui sont proches de nous, c'est formidable. Merci, Seigneur ! Alors moi, c'est sûr, j'aurais peut-être pas la patience, ni l'habileté. Mais c'est plaisant, quoi, quand on fait une fête et qu'ils apportent leur contribution. On dit, waouh, quelle créativité. Dieu est un Dieu créatif. Alors, tout le monde n'a pas non plus la pédagogie d'Hélène. J'admire la pédagogie d'Hélène ou de Madame Cecconello. Hélène, on n'a pas le droit de dire non quand Dieu nous donne un don. Donc, dit, voilà, c'est mieux. Mais oui, mais on admire tout ça. Eh bien, merci Seigneur. Parce que nous, si on ne l'a pas avec nos enfants, peut-être on peut lui envoyer. Et puis voilà, elle va nous donner des conseils. Et là, on va rentrer dans les uns les autres. La complémentarité. Hein, c'est super. Les talents formidables de couturière de la sœur de Sylviane. Moi, ça m'émerveille. Je suis quand même être capable de faire des choses pareilles. Elle est extraordinaire. Merci Seigneur. Ben oui, merci Seigneur. D'abord, ça fait plaisir à Sylviane et puis j'imagine à d'autres gens. Voyez, réjouissons-nous. Et alors là, comme ça, les sentiments de jalousie ne vont pas rester. Réjouissons-nous de la grandeur de Dieu. C'est un sujet de joie. La joie aussi de voir l'autre qui est béni. Alors ça, c'est quelquefois plus difficile. Moi, je me souviens quand j'emmenais mes enfants à l'hôpital presque tous les mois. Et... et que je voyais des non-chrétiens qui avaient des enfants en parfaite santé, je disais, oh, c'est dur, hein, de dire merci Seigneur. Mais réjouissons-nous de voir l'autre baigner. Je me souviens m'être fait ce raisonnement. J'étais devant l'école, je me souviens, je dis, Seigneur, c'est quand même dur de voir des gens qui ne croient pas en toi et qui n'ont pas tous les problèmes que j'ai. Et puis, je ne sais pas si c'est le Seigneur, mais enfin, à l'intérieur de moi, j'ai pensé, et si tous les gens autour de toi avaient les mêmes problèmes? Ouh, ce serait déprimant. Ah, donc réjouissons-nous de ce que les autres n'ont pas le problème qu'on a en ce moment. Que ce soit le travail, la voiture, la maison, c'est un encouragement. Dieu a répondu. Alors si, mon frère, ma sœur, si Dieu t'a pas encore répondu, réjouis-toi quand tu vois que l'autre, il a reçu sa réponse. Parce que toi, tu vas l'avoir aussi. Dieu te montre qu'il est bon, qu'il est attentif pour Pierre, Paul, Jacques et pour toi aussi. Et c'était un prédicateur américain qui avait prêché là-dessus. C'était le premier qui avait photographié la bombe à Hiroshima. Il était passé dans mon église et c'était un photographe de presse qui s'est converti. Et c'est lui qui nous disait ça. Quand je vois un frère qui est béni par quelque chose dont j'ai envie ou dont j'ai besoin, je me dis, merci Seigneur, après ce sera mon tour. Voilà. Et c'est comme ça qu'on lutte aussi contre la jalousie. Alors, l'amour, le deuxième négatif, c'est il ne cherche pas à se faire valoir ou à se mettre en avant, se prévaloir de tous ses droits, comme les Corinthiens. Et là, Kuhn dit quelque chose d'intéressant. Il écrit ça aux Corinthiens, le 1 Corinthiens 13, donc. Et il se demande si, quelque part, les Corinthiens, qui étaient très friands de procès entre eux, ça leur parlait un peu. Chercher à se faire valoir, à se mettre en avant, à avoir raison. Alors, c'est le problème aussi des parents, des profs, des mères, des spécialistes, des responsables. Il ne faut pas non plus qu'ils se servent de ce verset pour ne pas exercer le rôle que Dieu leur a donné. Hein? Ah ben, il ne faut pas se faire valoir, alors moi je laisse tomber. Il ne faut pas se mettre en avant, alors je laisse tomber. Donc ce texte peut être mal interprété, il faut faire attention. Hein? Et c'est souvent, surtout dans notre société, où on commence à dire aux profs, de quel droit vous me demandez de faire des devoirs? De quel droit le maire me demande ça? De quel droit mon patron me demande ça? Attention! Attention, eux, ils sont supposés exercer le rôle que Dieu attend d'eux. Donc, n'utilisons pas ce texte pour ça. Hein. Parce qu'il faut respecter les limites que Dieu a posées dans sa parole. Alors, troisièmement, ils ne s'enflent pas d'orgueil. Ah ! Alors, les gens qui disent haut et fort, je suis le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, le plus spirituel, c'est rare. Hein. Je ne sais pas si vous en avez rencontré, mais c'est rare. Et si on s'arrêtait là, personne n'est orgueilleux. Moi, je ne crois pas avoir rencontré de gens qui disent « je suis le plus fort, le plus intelligent, le plus beau », sauf pour rigoler. Mais... Donc, alors l'orgueil, il est où? Ben, le plus souvent, l'orgueil est beaucoup plus discret. Et là où ça marche très bien dans la société, c'est de dévaluer les autres pour se grandir soi-même. Alors, on va pointer du doigt tout ce qu'ils font de travers. Et on se sent tellement mieux. Parce que nous, on ne ferait pas ça si on était à leur place. Si on était à leur place, ce n'est pas sûr, mais... Et on pointe leurs défauts, leurs faiblesses. On se nourrit de ça. Et on se nourrit de ça, et on se sent tellement mieux, parce que nous, puisqu'on est capable de pointer le doigt sur ce qui ne va pas, ça veut dire qu'on est au-dessus de ça. Et ça, c'est embêtant. D'abord parce que ça nourrit le négatif dans nos vies. Au lieu de se réjouir de la création de Dieu, comme je disais tout à l'heure, de se réjouir de ce que Dieu fait chez les uns et les autres, c'est chercher l'erreur. Il y a des gens comme ça, moi, que je surnomme chercher l'erreur. Parce qu'ils vont trouver le petit truc qui ne va pas. Ou le gros truc, mais le petit truc, c'est plus intéressant parce que ça ne se voit pas beaucoup. Et puis, quitte au passage à en rajouter un petit peu, et alors on se met en valeur. L'amour pour les autres, c'est lui qui va nous aider à ne pas faire ça. Qui va nous aider à ne pas voir tout le temps ce que les autres font de travers. Parce qu'on aime le Seigneur. Et le Seigneur aime ces gens, et même moi, avec mes défauts. Alors les Corinthiens allaient plus loin, c'est ce que rapporte Kuhn, parce que eux, ils avaient trouvé moyen de s'enorgueillir, pas seulement d'eux-mêmes, mais des maîtres qui s'étaient choisis. Et puis ils les opposaient les uns aux autres. Moi je suis d'Apollos, et moi de Paul. Et Paul dit, non là, vraiment, c'est trop là. Il n'est même pas flatté par la chose, mais il dit quand même. Alors qu'aucun de vous ne s'enfle d'orgueil en prenant le parti de l'un contre l'autre. Et c'est dommage, parce que notre maître, c'est Jésus, et Jésus est rempli d'amour. Donc on ne va pas opposer un maître contre un autre. Et ça, c'est quand même très très important, parce que c'est une tendance totalement humaine, totalement naturelle. je ne sais pas si j'ai le temps, mais je connais une dame, malheureusement, j'ai appris récemment qu'elle était décédée, je me souviens, elle était venue dans notre église, et ce qui lui avait vraiment pas plu, c'est qu'on tapait des mains quand on chantait. Et alors je lui avais dit, mais dans les psaumes, c'est écrit qu'on tape des mains. Et elle m'avait regardé avec beaucoup de sérieux, elle m'avait dit, mais M. Bolzer et M. Fréré, ils n'auraient jamais accepté ça. M. Bolzer et M. Fréré étaient des pasteurs remarquables des Assemblées de Dieu, qui étaient extrêmement bien carrés. Et voilà, c'était sa référence. C'était plus la Bible. Oh, c'est dommage. Hein? Donc quand on commence à prendre l'un contre l'autre, la référence n'est plus la parole de Dieu. Mais c'est ce qu'a dit un tel ou un tel, il faut faire attention. C'est la parole de Dieu qui reste notre référence, même si ces gens-là ont fait des choses très bien. Je les connaissais, ils étaient très bien, mais bon, voilà, ils n'aimaient pas qu'on tape des mains. je vais terminer avec ça, parce que je pense que le temps passe. Les Corinthiens, je vais lire ce que dit Kuhn, parce que c'est intéressant. Les Corinthiens s'énorgueillissaient des maîtres particuliers qu'ils s'étaient choisis. Ils les exaltaient l'un contre l'autre. Paul leur dit qu'aucun de vous ne s'enfle d'orgueil en prenant le parti de l'un contre l'autre. C'est curieux que Paul classe ça dans l'orgueil. Pour ça, je dis, c'est pas seulement dire « je suis le plus fort et le plus beau hein. ». Paul utilise plusieurs fois dans cette épître ce terme qu'on peut traduire par être fier, prétentieux, jouer l'important. Donc il donne 4-18, 19, 5-2, 8-1 dans les Corinthiens, 1 Corinthiens. Il ne l'utilise qu'une seule fois ailleurs. Les Corinthiens étaient fiers de leurs dons. Ils étaient fiers de leurs enseignants, de leurs connaissances et même de leur liberté de péché. Paul leur dit ici que cet orgueil qui les mettait au-dessus des autres prouvait tout simplement leur manque d'amour. Donc ouais, parfois on peut être choqué par l'orgueil de l'un ou de l'autre, mais le plus profondément, le plus problématique, c'est le manque d'amour. Parce que quelqu'un qu'on aime, on ne va pas le traiter comme ça. Et donc c'est important, si on a cette tendance, parce que c'est une tendance humaine normale, hein, on n'est pas différents les uns des autres, on peut lutter si on aime, si on demande « Seigneur, aide-moi à aimer les uns, qu'on s'aime les uns les autres, à aimer les autres. » Je pense qu'on va s'arrêter là, il ne cherche pas son intérêt, etc. On en parlera la prochaine fois, du coup. Voilà. Mais je ne veux pas trop vous garder trop longtemps. Mais voilà, tout repose, en fait. Notre relation les uns les autres, tout repose sur l'amour de Dieu pour nous, sur son regard sur notre vie. Et ça, il ne faut pas l'oublier. On n'est pas mieux les uns que les autres. Mais Dieu est puissant pour nous changer. Et Dieu est puissant pour nous aider à vivre les uns avec les autres. Et pour nous donner cet amour, parce que vous avez entendu, il est capable, parce que ce que nous avons à faire, il le dépose en nous déjà. Et ça, c'est important. Il va nous donner, il donne ce qu'il ordonne. Et nous, l'amour de Dieu, l'amour d'un Corinthiens 13, 0-0. Hein. Mais si on laisse Dieu parler en nous, alors on va progresser dans ce chemin. Et j'en suis convaincue, on va progresser. Et les gens de l'extérieur pourront dire, oh là là, dans cette église, voyez comme ils s'aiment. Et ça, ça a été un des plus grands témoignages de l'Église primitive. Voyez comme ils s'aiment. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ces choses qui nous rassurent, qui nous rassurent aussi sur qui tu es, parce que tu es plein d'amour et de bienveillance. Tu nous donnes ce que tu ordonnes. Tu prends soin de nous. Tu es un père avec un cœur de mère. Et Seigneur, ton regard reste sur nous, même lorsqu'on te repousse par nos actions, nos paroles ou nos péchés. Tu gardes ton œil sur nous. Merci parce que tu es là. Et ce matin aussi, on veut te dire oui, comme on l'a chanté. Dire oui à ton amour, pour qu'il puisse s'exprimer au travers de nous. Qu'on puisse se réjouir de ta créativité envers les uns et les autres. Qu'on puisse se réjouir des dons multiples qui sont autour de nous, dans l'Église locale, dans l'Église universelle. Et que, Seigneur, tu sois glorifié par tout ce qui se passe entre les uns et les autres. Afin, Seigneur, que les gens de l'extérieur puissent dire « Voyez comme ils s'aiment ». Pas de cet amour guimauve, voilà, mais en action et en vérité. Que vraiment, Seigneur, tu nous remplisses de ton esprit, tu viennes à notre aide. Parce que vraiment là, sans toi, s'il y a un domaine, on ne peut rien faire, c'est bien celui-là. Sans toi, mais nous avons besoin de toi et tu es là, Seigneur. Amen.